Bonsoir. Nicolas Hulot veut faire de la France un leader mondial de l'hydrogène. Il dévoilera ce vendredi son plan. 100 millions d'euros d'investissement pour les déploiements technologiques. Oui, l'hydrogène qui pourrait représenter jusqu'à 20% de la consommation mondiale dans le monde, donc selon le cabinet McKinsey. Alors, tout ça est très encourageant, mais n'a-t-on pas déjà entendu la même chose sur l'éolien, sur le solaire? Alors, faut-il vraiment se disperser? L'hydrogène, est-ce que c'est une vraie bonne idée? N'est-ce pas quelque part un coup d'épée dans l'eau? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Vous allez tout savoir sur l'hydrogène, justement. Ça vous permettra d'avoir une petite idée. Je ne connaissais pas grand-chose jusqu'à ce soir. Je me suis plongé dedans. C'est passionnant, justement. J'ai plein de questions à poser à nos décodeurs de l'écho. L'hydrogène, un coup d'épée dans l'eau, oui. Un jeu de mots qui m'a été directement inspiré par Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business, qui suit ici les questions énergétiques. Bonsoir. Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Charlotte Delorgeril, c'est la directrice du secteur énergie dans le cabinet de conseil Sia Partners. Et puis Lionel French-Quillot, le directeur général de Hyundai en France, l'un des très rares constructeurs automobiles généralistes à miser justement sur l'hydrogène. Il nous dira pourquoi, il nous dira à quoi ça va ressembler justement. Alors, tiens, Charlotte Delorgeril, un petit cours très rapide, hein, pour faire simple, fiche technique, hein, pas surtout pas donner trop de complications. Comment s'est produit l'hydrogène? De quel hydrogène on parle? Parce que j'ai vu qu'en effet, tout n'était pas vert au pays de l'hydrogène. Hein.
Tout à fait. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'hydrogène, c'est le plus petit élément, le plus léger dans l'univers. On en trouve partout, mais on n'en trouve pas à l'état naturel. Donc, il faut le produire.
Alors, comment?
Alors, jusqu'à présent, en tout cas, on le produisait à partir d'énergie fossile. 96% de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile.
Donc, c'est
Tout l'enjeu, c'est bien la décarbonisation de l'hydrogène.
L'hydrogène qui est fabriqué par électrolyse. Voilà, on revient tous à nos cours de biologie, de sciences nat, du lycée, par électrolyse de l'eau. Alors, soit à partir d'énergie fossile, donc ça c'est le gros du truc, ou d'énergie renouvelable. Alors là, c'est là que ça devient intéressant parce que, c'est propre, c'est décarboné.
Voilà. Donc, on produit de l'électricité renouvelable, par exemple à partir de l'éolien. On a un surplus qu'on n'exploite pas.
Tout juste.
Ce surplus, qu'est-ce qu'on peut en faire? Évidemment, on peut par électrolyse de l'eau produire de l'hydrogène. Et ensuite, il y a plusieurs usages à cet hydrogène. On peut l'utiliser dans la mobilité. On peut l'utiliser dans l'injection des réseaux de gaz par un procédé qui s'appelle la méthanation. On peut aussi s'en servir pour décarboner les transports, le chauffage, dans le résidentiel et dans le tertiaire.
Parce que justement, l'un des avantages de l'hydrogène, c'est justement déjà une façon peut-être de profiter des excédents, des énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, hein, en transformant finalement les surplus en hydrogène, et puis également de pouvoir stocker cette énergie. Parce que l'électricité, en général, on n'arrive pas à la stocker. Une fois qu'elle est produite, il faut la consommer. Là, l'avantage, c'est qu'on peut la stocker. Donc, on peut l'utiliser quand on en a besoin, en période de grosse consommation, par exemple. Puis le reste du temps, elle reste tranquillement.
Et on peut surtout la stocker sur une longue durée par rapport à une pile, une batterie classique.
Oui, parce que ça ressemble à quoi, justement, l'hydrogène? C'est sous quelle forme, justement?
Sous forme gazeuse, mais...
Et après, c'est sous forme de quoi? De pile, de...
Alors dans les transports, donc les véhicules sont équipés d'une pile à hydrogène, et c'est la pile à hydrogène qui se charge de transformer l'hydrogène en électricité pour faire avancer le véhicule.
Et c'est cher à produire?
Alors, c'est tout l'enjeu.
On va en reparler tout à l'heure à propos du plan de Nicolas Hulot. Oui, Mathieu Pechberti, on écoute Charlotte Delorgeril qui nous dit, c'est très utile en matière de mobilité, en matière de stockage. Il y a quelques initiatives, ça et là. Engie, vous me le faisiez remarquer, donc hier, qui a présenté début juin sa première flotte de véhicules utilitaires hydrogène. Ouais. On voit à Paris une société Hype qui exploite déjà 75 taxis qui roulent à l'hydrogène. Il y a des flottes municipales également. Il y a des prototypes de trains fonctionnant à l'hydrogène, je crois, aux Pays-Bas. Bon, ce sont des exemples isolés ou ça commence tranquillement mais sûrement faire son chemin ?
Pour le moment, ce sont vraiment des exemples isolés, hein, clairement. Il y a des tests qui sont faits ici ou là, comme vous dites, sur le sur l'aspect mobilité, donc les transports, pour être clair. Moi, je suis pas certain que ce soit dans cette catégorie-là qu'on puisse utiliser au mieux l'hydrogène, mais vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure. En revanche, pour le stockage, je pense que c'est une vraie question, parce que il y a un vrai problème de stockage, et les énergies renouvelables posent ce problème, puisqu'elles sont, comme tout le monde le sait, intermittentes. Donc les éoliennes ne tournent que quand il y a du vent, et les panneaux solaires ne fonctionnent que quand il y a du soleil.
Tout juste.
C'est jamais inutile de le répéter. Le problème, c'est que cette technologie, si elle est au point aujourd'hui, contrairement à certaines batteries purement électriques, qui ont encore besoin de faire des progrès en termes de productivité, aujourd'hui, ça nécessite quand même des investissements très lourds. On a un champion français qu'on cite souvent, mais il faut quand même le citer, qui s'appelle Air Liquide.
Bien sûr. On entendra Benoît Potier, d'ailleurs.
Voilà, ils essayent de développer ça. Il y a une ou deux pompes, je crois, à hydrogène qui se baladent dans Paris. Le problème, c'est que, comme pour tout, ça nécessite beaucoup d'investissements. En tout cas, comme pour tout, dans l'énergie. Et que il faut quand même rappeler que la France est un petit pays dans le monde et surtout en Europe, et que investir seul et un petit montant, sans vous parler de 100 millions d'euros, c'est quand même extrêmement petit.
On va y revenir, bien entendu.
Donc on est vraiment tout au début. Tout c'est au peut-être début prometteur, mais je suis pas sûr qu'il faille mettre autant d'investissements là-dedans.
Ah oui, Alexandre Roche, alors vous, militant des énergies renouvelables, puisque vous êtes le délégué général du syndicat des énergies renouvelables. On le disait, et c'est vrai, Mathieu le faisait très justement remarquer, il y a un côté aléatoire quand même dans les énergies renouvelables. Il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'éolienne, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de photovoltaïque. L'hydrogène peut favoriser justement, accélérer le développement de ces énergies renouvelables ?
Oui, bah écoutez, les énergies renouvelables ont couvert sur le dernier semestre de l'année 21% de notre consommation d'électricité, pour vous donner une idée. Il va falloir doubler
donc
cette part.
Donc ça, c'est en progression, j'imagine.
Si vous progression, il va falloir doubler cette part d'ici 2030. Donc on aura, d'après les objectifs de la loi de transition énergétique, 40% d'électricité renouvelable dans le système. Nous, on considère au syndicat des énergies renouvelables qu'on peut aller au-delà, évidemment. Mais c'est vrai qu'une partie de cette électricité additionnelle qui va arriver va être nous, on la qualifie plutôt de variable plutôt qu'intermittente. Et se pose la question, en effet, de pouvoir gérer cette variabilité dans le système électrique. Il y a plusieurs solutions. Certaines sont plus compétitives que d'autres aujourd'hui. Mais je pense qu'il y aura de la place, en effet, pour différentes technologies. L'hydrogène peut avoir sa place dans ce mix. Il y a des batteries électriques. Il y a aussi l'hydraulique. En France, faut pas l'oublier. On a des stations, qu'on appelle les STEP, qui sont aujourd'hui, finalement, des énormes batteries. Donc, l'ensemble de ces éléments-là va devoir se mettre, s'emboîter pour gérer le système électrique de demain qui, en effet, sera beaucoup plus vert et plus variable.
Alors, la mobilité, tiens, est-ce que l'hydrogène va trouver sa place dans l'automobile, justement, une place à côté, évidemment, des carburants traditionnels, le diesel, l'essence, et puis, évidemment, de ce qui est à venir, peut-être, en tout cas, ce qui essaie de se développer, l'électrique, l'hybride, le gaz naturel. C'est quoi ? Alors, racontez-nous, Lionel French-Kio, vous, le patron de Hyundai en France, parce que vous misez, justement, Hyundai sur l'hydrogène, qu'on comprenne bien l'intérêt de mettre de l'hydrogène dans l'auto. Ça sert à quoi ? Alors, racontez-nous.
Non, d'abord, il faut bien rappeler qu'une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. C'est une voiture électrique qui produit sa propre électricité. C'est important parce que on a très souvent tendance à opposer l'électrique versus toutes les autres technologies. Une voiture à pile à combustible est une voiture électrique, donc qui n'émet que de la vapeur d'eau. Donc ça, c'est important.
Il paraît même que cette eau, elle est même potable, si on veut. Elle dit oui, Charlotte.
On voit bien l'image
Charlotte de Lorgeril,
très commerciale de la personne qui boit son verre d'eau, de l'eau qui sort du pot d'échappement.
Bon, c'est du commercial, c'est du marketing, je sais pas.
La réalité, c'est qu'effectivement, l'eau est extrêmement pure, en tout cas, celle qui peut sortir du pot d'échappement, même si c'est probablement plus le bon terme pour ce genre de véhicule.
Bon, donc, alors continuez.
C'est
pardon.
Une voiture électrique. Ouais. Et ce qui est important, c'est de pas opposer les technologies. Je pense que à aucun moment il faut se dire finalement telle technologie va prendre toute la place sur le marché sans laisser aucune place à aucune autre. Pour la mobilité, il faut toujours se baser sur la manière dont les gens utilisent leur véhicule. Que je sois un petit rouleur qui fait 10 km par jour et 5000 km par an, ou un commercial qui va faire 10 000 km par mois, je peux pas avoir la même technologie puisque je n'ai pas les mêmes besoins. C'est aussi vrai pour un livreur qui a son véhicule utilitaire et qui, tous les jours, parcourt des milliers de kilomètres. Et pour ces gens-là, l'électrique, que je vais appeler à batterie, correspond pas à leur utilisation. Et l'hydrogène peut être une solution, puisque on n'a pas de contraintes liées à la charge, puisque vous allez faire le plein de votre véhicule hydrogène, ça prend quelques minutes et vous repartez sans avoir
été. Soyons clairs, parce que moi je connais pas du tout les véhicules à hydrogène. À quel endroit on fait le plein, on se branche comment, alors, dites-moi.
Vous avez une prise qui ressemble à une grosse prise électrique, si vous voulez.
Où ça?
Vous
allez brancher chez moi ou faut aller?
Non, non, faut aller. Alors sur Paris, il y a aujourd'hui deux stations.
Ah oui, c'est
une à Orly, une au pont de l'Alma.
J'ai vu qu'il y en a même pas 10 en France.
Une vingtaine. Non, il y en a une vingtaine en France.
Bon, c'est la bonne nouvelle. Pas quand même en France.
Donc,
quoi, voilà.
Effectivement, aujourd'hui, la problématique est une problématique d'infrastructure.
Donc on recharge le donc,
on branche, on plug, à cette station, voilà, un peu comme ça, une, prend 2-3 minutes pour partir.
2-3 minutes pour faire le plein, quoi.
Absolument.
C'est ça. D'accord. Contre, alors c'est vrai qu'avec l'électrique, ça prend quoi, une heure à peu près, quoi, vaguement.
Alors
8 heures plutôt.
C'est,
8 heures.
C'est-à-dire que si vous prenez un fast chargeur, vous avez X% de votre batterie qui est chargée très vite, mais toujours qu'une partie de la batterie.
Je pensais à Tesla, c'est pour ça.
Et de toute façon, encore une fois, tout le monde n'a pas un chargeur rapide à la maison. Mmh. Et la plupart des gens aujourd'hui qui ont un véhicule électrique rechargent à la maison. Mmh. Et c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des temps de charge qui sont de 8 à 12 heures que de réellement une heure. Donc il faut faire attention encore une fois à ça.
Alors je recharge en quelques minutes, donc si j'arrive à trouver une station de pompage, de recharge, exactement.
Et je repars.
Et après je roule combien de kilomètres ?
Aujourd'hui, le véhicule qu'on lance là, à peu près 700 km d'autonomie.
700 km. Ah oui, alors que l'autonomie d'un véhicule électrique par batterie, c'est pour le plus grand, 3 fois moins. Oui, c'est ça. Mmh. Oui, Carlos Ghosn était venu expliquer ici sur BFM Business qu'on pouvait aller monter au-delà de 300 km, mais c'était vraiment dans des conditions
maximum.
Donc on va rouler 600 km. Ça coûte cher. Qu'est-ce que vous développez, vous, chez Hyundai, comme type de modèle?
Alors aujourd'hui, on a un SUV là qui est une deuxième génération de SUV qui arrive sur le marché dans quelques jours. Donc on va être sur des prix qui vont être de l'ordre de 30% plus cher qu'une voiture équivalente.
Combien?
Donc autour de 70 000 euros.
Ah oui, ça rigole pas. 70 000, ouais.
Bon,
ouais.
Effectivement, aujourd'hui, c'est pas une technologie qui est accessible à tous par les infrastructures, par le prix des véhicules.
Bien sûr.
Mais comme très souvent, quand on arrive avec des technologies, qui sont pas des technologies de masse, la massification va amener la baisse du prix. Et c'est dans la logique, en tout cas, dans laquelle nous on s'est inscrit, puisqu'on a fait notre première voiture hydrogène en 98, donc on est déjà à la 6e génération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a été les premiers, mais d'autres constructeurs arrivent, et le développement de l'offre va aussi amener probablement plus de gens à travailler sur ce sujet.
Ouais, vous nous dites 70 000 euros. Bon, on est fait vraiment à l'état quasiment d'expérimentation. Vous en vendez combien des véhicules Hyundai?
Alors, aujourd'hui en Europe, il y a 500 voitures qui roulent. On en a une centaine en France.
Ouais, 500 en Europe, 100 en France. On voit Hyundai, on voit Toyota également, on voit Honda, donc trois constructeurs. On voit un équipementier Faurecia. Pourquoi vous démarquez-vous des constructeurs qui mise sur l'électrique, celui qu'on connaît, celui que développe Renault spécialement, puisque c'est le champion en France.
On a également des voitures électriques.
Bien sûr, vous en avez.
Donc c'est pas, encore une fois, je pense qu'il faut pas opposer les technologies. C'est, pour moi, c'est l'erreur de dire dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde roulera avec une voiture à batterie. C'est pas vrai, parce qu'encore une fois, ce type de technologie n'est pas adapté à l'utilisation de tous. Même si on nous dit oui, mais la technologie va évoluer, etc., il y aura toujours la problématique de la recharge. Et en plus, aujourd'hui, sur la base des technos qu'on connaît, il y a aussi une problématique de production des batteries et des éléments qui sont à l'intérieur de ces batteries. Donc, moi, je suis pas en train de vous dire que demain, 100% des voitures rouleront à l'hydrogène. C'est pas non plus vrai. Mais rapidement, encore une fois, dans les 5 ans, dans les 10 ans, il y a certains véhicules qui vont arriver. Peut-être pas les voitures, probablement les trains d'abord, les camions, les bus. Puisque là on parle d'outils entre guillemets qui ont besoin de rouler presque H24 et donc ces véhicules-là ne peuvent pas s'arrêter et donc d'être capable d'avoir une technologie hydrogène qui permet de rouler en permanence, ce seront probablement les premiers véhicules qui seront sur la route avec ce type de technologie.
Ouais, et d'ailleurs McKinsey, le cabinet McKinsey que je citais tout à l'heure, qui expliquait que la mobilité en effet représente le principal segment vecteur donc de l'hydrogène, il estime que 10 000 véhicules pourraient être alimentés d'ici 2023, 200 000 en 2028, et notamment en effet tout ce qui est transport lourd, bus, camion, etc. Mathieu Pecheberti.
Non, mais effectivement, le point qui vient d'être mentionné est important, c'est on voit bien que c'est une énergie qui est quand même davantage destinée à la grande mobilité, c'est-à-dire effectivement les transports collectifs. Bon, on parle du train, s'il y a des trains hydrogène dans 10 ans, tant mieux, on est quand même sur un mode de transport aujourd'hui qui est déjà électrique.
Oui, mais il y a encore beaucoup de lignes qui ont besoin d'être électrifiées et qui ne le seront pas grâce
à... Alors, c'est ce sur quoi mise Nicolas Hulot pour essayer de maintenir des petites lignes. Bon. Moi, ce que je reproche un petit peu dans cette sortie de Hulot, qui est évidemment une sortie politique par définition, puisqu'il est ministre, qu'il est quand même dans un temps politique, je le dis, parce que après on parle plus d'économie et de technique, mais Nicolas Hulot est dans un moment politique où il est pas bien, il se prend de nombreux revers, notamment dans le domaine énergétique à cause du nucléaire, et il a besoin de faire des preuves
dans les engrais également, les pesticides,
de glyphosate évidemment, et voilà, il a besoin de montrer qu'il s'agite un peu sur son terrain de jeu.
Et donc trois jours, il dit je reste ou je reste pas, voilà, il menace.
Bon. Donc l'hydrogène sur le débat théorique, très bien, mais. Encore une fois, on a en France des énergies renouvelables concrètement qui sont déjà là, qui sont déjà compétitives. Le solaire l'est, l'éolien l'est, et on voit que l'éolien a quand même des difficultés à se développer en France. On a essayé il y a 10 ans, bientôt maintenant, de développer de l'éolien en mer, au large des côtes, où on nous disait que ça serait beaucoup mieux d'accepter parce que c'est loin et en gros on le verrait pas, même s'il y avait des pêcheurs. Et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ce qu'on a attribué il y a 10 ans, ça coûte trop cher. Donc, il y a d'autres énergies dont on a parlé il y a quelques années sur les hydroliennes. Vous savez, ces éoliennes qui tournent sous l'eau, parce qu'on a quand même l'une des plus grandes façades maritimes d'Europe et du monde pour les mettre sous l'eau.
L'énergie marée motrice.
On a des grands courants. Et en fait, il y a un seul industriel véritablement qui s'est lancé dedans, qui est Naval Group. Et ils n'y arrivent pas. Ça leur coûte trop cher. EDF ne leur achète pas la techno. Bref, sans mauvais jeu de mots, on rame sur quand même beaucoup d'énergies renouvelables vraiment nouvelles qui n'arrivent pas à éclore. Ça veut pas dire qu'il faut pas se lancer dans l'hydrogène, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on est un petit pays et autant ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais ne pas trop se diversifier. Et ça, je pense qu'en fait, ça montre qu'il y a quand même pas un plan global, une vision très globale du gouvernement, une cohérence. Vous parliez d'infrastructure tout à l'heure. C'est un vrai sujet, l'infrastructure pour l'hydrogène. Et là, il n'y a aucune vision de la part du ministère là-dessus. Voilà, c'est quelques points
l'hydrogène, est-ce que c'est une solution dans notre mix énergétique demain? Qu'est-ce que ça représente, l'hydrogène, dans le mix énergétique? En tout cas, quand on écoute Benoît Potier, et vous l'avez cité tout à l'heure, enfin en tout cas c'est Air Liquide, hein, Air Liquide qui fait partie des fondateurs du Conseil mondial de l'hydrogène, qui réunit 40 grands groupes comme ça dans le monde pour promouvoir quelque part cette énergie, comment vous dites ? Dont Hyundai, dont vous représentez ici la filiale française, Lionel French-Kio, vous êtes le directeur général. Benoît Potier, il dit, c'est en train de devenir une solution qui permettra d'effectuer la transition énergétique. Il s'exprimait il y a 2 semaines à l'occasion de son AG d'Air Liquide.
100 stations hydrogène ont déjà été installées dans le monde par Air Liquide, dont 10 en France, 12 en Allemagne et 30 en Europe. À l'échelle mondiale, l'hydrogène pourrait représenter un cinquième de l'énergie totale consommée à l'horizon 2050.
Bon, alors, il y croit hein, quand même, Benoît Potier. Charlotte Delorgerie, Alexandre Roche, pour répondre aux interrogations, aux doutes, aux réserves émise ici par Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business. Qu'est-ce que vous dites ? L'hydrogène, ça peut peser quoi exactement ? McKinsey dit que ça pourrait représenter 10% de la consommation d'énergie par l'industrie en 2050, 20% de la consommation énergétique mondiale. Qu'est-ce que vous dites ?
Là où j'ai envie de nuancer les propos qui viennent d'être tenus...
Par qui ? Par Benoît Potier ou par Mathieu Pechberti ?
Par Mathieu.
Eh ben, oui.
C'est que l'hydrogène va vraiment permettre le développement des énergies renouvelables et va apporter une flexibilité au réseau énergétique. Le mix énergétique va fondamentalement changer par rapport à celui qu'on connaît, avec une part du nucléaire prédominante. Et donc, le fonctionnement des réseaux va changer. Ils vont être de plus en plus interconnectés et l'hydrogène va contribuer à être une réponse à la flexibilité des réseaux, mais aussi à son verdissement. Donc, pour moi, c'était important de le rappeler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix des piles et des véhicules. Ce qui est important, moi, je trouve, de partager avec les téléspectateurs, c'est que dans la pile, il y a du platine. Le platine, ça coûte très cher. C'est aussi cher que l'or. Et aujourd'hui, il y a de la recherche de développement qui est en train d'être fait pour remplacer le platine par du fer, qui est 200 fois moins cher que la platine. Et donc, je pense que tous les axes de développement, tous les axes de R&D qui doivent être lancés doivent permettre aussi de rendre plus compétitifs les véhicules. C'est un des enjeux en plus de l'enjeu du verdissement de l'hydrogène et de son mix.
Alexandre Roche, qui est le délégué général du syndicat des énergies renouvelables.
Non, mais je voulais peut-être aussi rappeler une chose, c'est que l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. C'est pas une source d'énergie à proprement parler. Ça a été bien rappelé en introduction. Il faut le produire.
Par Charlotte Delorme.
Donc c'est vraiment la question de comment on produit l'hydrogène et ensuite comment on l'utilise. Et si on revient deux secondes au secteur des transports, je crois qu'il faut regarder les grandes masses aujourd'hui. On a 8,5% d'énergie renouvelable dans le secteur des transports en France aujourd'hui. Ça veut dire qu'il reste 90% d'énergie à décarboner. Donc il y aura de la place, je pense, pour plusieurs technologies. Aujourd'hui, il faut aussi avoir conscience que la majorité, la très grande majorité sur ces 8,5%, 7%, ce sont des biocarburants de première génération qui sont produits en très grande majorité sur le sol français avec une imbrication totale avec le tissu agricole. Demain, on aura évidemment de la mobilité électrique sous ces différentes formes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un enjeu tel de décarbonisation dans le secteur des transports qu'il faudra pousser sans doute plusieurs solutions.
Est-ce que vous dites, voilà, il y a de la place pour tout le monde.
Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut...
Quand Mathieu nous dit, bon, peut-être qu'on se disperse un peu en misant un petit peu sur tout en même temps, il faut peut-être se reconcentrer.
Non, les enjeux de décarbonation dans les secteurs des transports comme sur le secteur de l'électricité, je réagis à ce que disait Mathieu sur l'hydrolien, sur l'éolien en mer. La réalité, c'est qu'on a besoin de toutes les ressources. Si on veut atteindre nos objectifs de transition énergétique, il n'y a pas le choix. Il va falloir tabler sur l'ensemble des ressources. Alors, c'est vrai que ça fait finalement que 10-15 ans qu'on est vraiment dans un rythme de développement. Dans le secteur de l'énergie, c'est pas grand-chose. Je pense vraiment qu'on est arrivé aujourd'hui à des seuils, des effets de cliquet qui vont arriver très bientôt. On va voir que, et on commence à le voir sur les résultats des appels d'offres, les prix des énergies vraiment diminuent. On va vraiment, je pense, aller vers un déclenchement massif de ces sources d'énergie. Après, c'est sûr que voilà, c'est toujours pareil. En 10-15 ans sur le secteur de l'énergie, c'est pas grand-chose.
Lionel French-Kio, patron de Hyundai en France.
Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il ne faut pas opposer les technologies, c'est important. Et là où je rejoins ce que vous disiez en revanche, c'est que on a besoin de cohérence au niveau, à minima, au niveau européen. Et c'est toujours ça qui est un peu compliqué pour nous en tant que constructeur automobile mondial, d'avoir des positions qui sont parfois très différentes d'un pays à l'autre. Sur l'hydrogène, l'Allemagne était plutôt plus volontaire, on va dire, que n'était la France, en termes d'infrastructure notamment. Alors que, entre guillemets, le retard de la France par rapport aux enjeux écologiques est au moins aussi important. Et donc, c'est pour ça que cette cohérence-là, elle doit aussi, évidemment, s'afficher au niveau européen pour éviter qu'on se retourne dans des situations où l'Allemagne prend une position, la France une autre et une troisième pour l'Italie ou l'Espagne. Toujours, et si je parle d'automobile, si on me dit, bah, tiens, demain en France, t'as plus le droit de rouler avec une voiture qui est une voiture avec de l'essence et que je décide de partir en Espagne en vacances et qu'en revanche, en Espagne en vacances, il n'y a pas de station de recharge, qu'est-ce que je fais? Donc, effectivement, d'avoir des approches trop locales sont aussi finalement contre-productives parfois, et c'est important qu'il y ait cette cohérence-là, mais c'est aussi important que, de temps en temps, je dirais, tout le monde essaie de pousser dans la même direction.
Mathieu Bechberti et Charlotte Delorgerie, et on reviendra juste après. Allez-y, Mathieu.
Oui, mais l'une des questions que je me pose quand même pour faire émerger cette... Nicolas Hulot dit qu'on a déjà en place tout dans cette filière hydrogène, mais il faut la faire, non pas émerger, mais il faut qu'elle se construise et qu'elle se standardise.
On va voir comment, oui.
C'est comment les industriels réagissent. Alors vous êtes un exemple positif. Quand on écoute les industriels des transports et de l'énergie, l'hydrogène, alors évidemment ils en parlent, ils vous disent oui à chaque fois parce que ils vont pas vous dire non. Mais en fait, ils s'y intéressent pas tellement. Vous voyez bien que en France, alors on est en plus encore plus conservateur, mais les grands industriels, ça y est, ils se disent bon, en fait, alors on va se mettre déjà au solaire et à l'éolien. Et la question qui est posée, c'est quand même ces histoires de débouchés industriels, purement et simplement. Moi, Benoît Potier, je crois en sa bonne volonté, mais encore une fois, on en est quand même au tout début. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas y aller. C'est juste, je mets un petit bémol sur... Est-ce qu'on a le droit de s'emballer, mais regardons quand même ce qui est à côté. Il y a encore beaucoup d'énergie. Vous parlez des biocarburants tout à l'heure. C'est quand même un pan d'activité que le gouvernement a très peu développé depuis 10 ans, alors qu'il y a beaucoup de les matières premières, par définition, sont sur notre territoire.
Tout juste, c'est très local aussi.
Il y a une filière qui n'arrive pas, comme pour la biomasse, par exemple, pour la chaleur, cette fois. Mais les industriels n'arrivent pas à trouver de modèle économique là-dessus.
Et c'est vrai, Charlotte Delorgerie, là, pour continuer sur ce que disait Mathieu Pechberti, vous dirigez le département énergie chez Sia Partners. Les industriels, qu'est-ce qui explique que la plupart des constructeurs automobiles ne font rien sur l'hydrogène? parce que là j'ai cité trois constructeurs, bah, non des moindres, hein, des Asiatiques spécialement, hein, Hyundai, Toyota et Honda. Et les autres, ils sont où? Pourquoi ils croient pas à l'hydrogène?
Je pense que c'est aussi une des réponses du plan de Nicolas Hulot demain. C'est la filière hydrogène, elle a besoin de se coordonner. Se coordonner, c'est répondre aux automobilistes, c'est répondre aux constructeurs sur la mise en place aussi d'infrastructures qui va permettre de développer la filière. C'est permettre aussi le financement de cette filière, qu'elle se coordonne, qu'elle fasse de la recherche-développement, qu'elle développe des démonstrateurs. Tout ça doit se coordonner. On a des champions français reconnus sur la scène internationale en France. On a aussi un tissu de PME et de start-up qui se développe dans l'hydrogène. L'objectif, c'est vraiment véritablement de fédérer tous ces acteurs, de générer des emplois, de faire de la France une vitrine en matière de compétences de pointe sur la filière hydrogène. Et ça, en cohérence, comme le disait tout à l'heure monsieur, au niveau européen, de manière globale.
Bon, on verra justement ce que vaut le plan Hulot, justement, dans un instant, comment donner un coup d'accélérateur, s'il faut donner un coup d'accélérateur, donc justement, à cette filière hydrogène en France. On parlera aussi du syndicat des énergies renouvelables, bien sûr, hein, où est-ce qu'on en est, justement. Est-ce un coup d'épée dans l'eau, ce plan hydrogène? On revient vite sur BFM Business, à tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les questions énergétiques au cœur des décodeurs de l'écho, à l'occasion évidemment de la présentation demain du plan hydrogène de Nicolas Hulot. 100 millions d'euros pour développer la filière. Bon, alors on verra si c'est suffisant. Bon, est-ce qu'il faut y croire? Juste, hein, parce que Mathieu Pecheverti, j'ai le plaisir de vous avoir, vous qui suivez toutes les questions énergétiques ici à BFM Business. Deux petites questions sur l'actualité, bien entendu. Bon, c'était attendu, hein, Stéphane en parlait ce matin. Hein. Bon, c'est EDF qui envisage un nouveau retard de quelques mois, je cite évidemment EDF, de l'EPR de Flamanville. Ça s'arrêtera jamais.
Ouais, on en est au cinquième ou sixième, hein, j'essaie de faire les comptes, mais je m'y perdais un petit peu. Il y a 6 années de retard et on en a 10 milliards d'euros pour ce chantier, donc il n'en finit pas de déraper. Sans entrer dans les détails techniques, il y a des soudures à refaire sur certains tuyaux de l'EPR de Flamanville. Il devait démarrer avant la fin 2018, hein, vraiment toute fin 2018. Là, aucune date n'a été donnée, mais on va plutôt se diriger vers le premier semestre 2019. Et d'ailleurs, EDF a annoncé en parallèle que la centrale de Fessenheim, qui devait fermer en même temps que la centrale de Flamanville devait ouvrir. Du coup, sa fermeture est également décalée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour EDF, hein, faut se le dire, puisque leur crainte, c'était que Fessenheim ferme début 2019, en plein hiver. Alors que Flamanville est quand même un prototype, hein, faut le dire. Donc pour eux, c'est une manière de garder Fessenheim pendant tout l'hiver et de passer l'hiver entre guillemets au chaud. Voilà. Mais en tout cas, sur le chantier de Flamanville, un, il n'y a pas encore de décision, mais deux, on se dirige vers un nouveau retard.
Voilà, ça va fonctionner jusqu'à l'été 2019, dit le ministre.
Là, il y aura de nombreux mois de décalage encore. On parle de 2019 au plus tôt, voire 2020.
Bon. On revient sur l'hydrogène. Bon, très bien. La France, leader mondial de l'hydrogène. Oui, et ben voilà, c'est Nicolas Hulot qui explique qu'il veut transformer la France en leader mondial de l'hydrogène. Toute la filière hydrogène existe en France. Ne loupons pas cette transition énergétique. Soyons les premiers sur cette filière. Que disait Nicolas Hulot? Je pense que la France est en train de rattraper un petit peu son retard psychologique. Retard psychologique, pourquoi? Qu'est-ce que ça inspire, l'hydrogène? Tiens, Charlotte de Lorgeril, directrice du secteur énergie chez SIA Partners.
Monsieur Hulot surfe sur le tissu industriel français qui est connu et reconnu à l'international, c'est évident. Il faut savoir quand même qu'un certain nombre de pays ont déjà lancé leur plan hydrogène depuis un certain temps.
Japon, États-Unis, Allemagne notamment.
Alors, si on prend l'exemple de l'Allemagne, le plan a été lancé en 2016 pour une première période 2016-2019 avec 250 millions mis sur la table immédiatement.
250 millions.
Pour le développement des infrastructures et l'aide à l'achat des véhicules, puis 25 millions par an jusque 2025.
Et qu'est-ce que ça donne là aujourd'hui, au moment où on se parle d'Allemagne, l'hydrogène en Allemagne, qu'est-ce que c'est?
Il y a nettement plus de stations qu'en France.
Alors on en a 20, nous disait tout à l'heure Lionel French-Quillot, le patron de Hyundai en France. En Allemagne,
non.
j'ai pas le nombre de stations en Allemagne, mais il est significativement supérieur à celui de la France. En termes de véhicules, c'est la même chose. Donc quand on voit l'annonce des 100 millions, c'est un bon début, mais ça reste
ça vous
semble un petit peu décevant.
Cheap. Voilà, Nicolas Hulot
surtout
qui propose
quand
de fixer à 10% la part d'hydrogène produit à base de sources renouvelables à l'horizon 2023. Quels investissements faut-il mener pour développer l'hydrogène? Bon, déjà, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même une filière hydrogène qui est quand même très polluante. 96% d'hydrogène, c'est des produits car il faut donc décarboner l'hydrogène, faut faire baisser les coûts de technologie, j'imagine, vous nous le disiez tout à l'heure, bien entendu. La fiscalité, je sais pas du tout, là, on va, j'imagine, inventer un petit impôt encore sur, allez-y, Alexandre Roche, représentant du syndicat des énergies renouvelables.
Bah, je pense que, encore une fois, comme je le disais, comme c'est un vecteur, c'est une forme d'énergie qui a vocation à se transformer si elle veut être utilisée soit dans l'électricité, soit dans la chaleur, soit dans les transports. Donc ça veut dire qu'il faut toujours, à chaque fois, une interface pour l'injecter dans le réseau en question. Donc c'est sur ces infrastructures-là, et Mathieu Pechberti le mentionnait tout à l'heure, qu'il va falloir investir des électrolyseurs, des choses comme ça. Mais je pense que ce qui est intéressant quand même dans la démarche, c'est, et on le voit sur les autres formes d'énergie, d'avoir quand même cette composante industrielle dans la réflexion. Je pense qu'en France aujourd'hui, c'est important de garder ça en tête et de se dire sur l'éolien en mer, sur la méthanisation, qui est une autre filière en très fort développement aujourd'hui en France, d'avoir vraiment aussi un projet industriel derrière. Donc de ce point de vue-là,
à condition de fédérer tous les acteurs, hein, comme le disait tout à l'heure Charlotte de Lorgerie, là, une filière peut-être un petit peu éclatée. C'est l'occasion
de raisonner en chaîne de valeur et de jouer sur ses avantages. Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant. Mais après, c'est vrai que faut pas se le cacher, on va pas passer à l'hydrogène comme ça du jour au lendemain. Il y a des besoins d'infrastructures qui sont importants et des investissements derrière qui sont importants.
Qu'est-ce qui manque exactement pour passer à la vitesse supérieure, Lionel French Kio, Hyundai?
Pour ce qui concerne la mobilité, évidemment, c'est des infrastructures de recharge. Avec 20 au niveau national, c'est évident que massivement les gens vont pas se mettre à rouler à l'hydrogène.
Ah non.
Sachant que la plupart d'entre elles sont pas accessibles aux particuliers, puisqu'elles sont souvent détenues par des mairies, par des départements ou par des entreprises privées pour leur propre flotte. Donc c'est évidemment la première priorité, c'est de travailler sur l'infrastructure de manière à ce que on puisse assez facilement faire le plein demain dès qu'on aura acheté ce type de véhicule.
100 millions d'euros versus l'Allemagne qui met 250 millions dans un premier temps puis 50 millions chaque année.
25 par an.
Bien sûr, 250 plus 25. C'est un peu cheap tout ça.
Bah, disons que il va falloir.
On se donne bonne conscience. Il va falloir qu'il choisisse.
Il va falloir qu'il choisisse ses projets. C'est-à-dire que si effectivement il veut tout traiter de A à Z. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la composante mobilité dans l'hydrogène, mais en tout cas, s'il veut traiter tous les sujets, il aura du mal à le faire. On a dit en préambule qu'effectivement, de travailler sur un hydrogène vert, évidemment, une priorité, parce que c'est un peu paradoxal de dire je veux décarboner le pays en fabriquant de l'hydrogène avec des hydrocarbures. Donc ça, c'est forcément la première priorité. Et puis après, tout ce qui est effectivement infrastructure, qui est évidemment, en tout cas pour la mobilité, un prérequis.
Mathieu Pechberti.
Oui, encore, je pense qu'il faut regarder aussi sur quoi la France peut s'appuyer aujourd'hui. La filière industrielle, vous l'avez dit, c'est très important. Et il y a des paradoxes où, comme ça, en France, on a toujours envie de faire émerger de nulle part ce qu'on n'a pas. Je pense que c'est l'esprit des Lumières qui revient, je sais pas. Mais non, mais plus sérieusement, oui, EDF a annoncé un grand plan solaire, un grand coup de com' aussi, il y a maintenant quelques mois. Et son PDG, Jean-Bernard Lévy, a dit que il n'allait pas se développer dans l'éolien. Total a fait la même chose. Alors en disant que l'éolien n'était pas accepté par la société, par les gens en France. Bon. Peut-être on peut en débattre, mais enfin on a encore une fois une façade maritime et donc avec beaucoup de vent. Donc on a des ressources de matières premières gratuites. On en parlait pour l'hydrolien avant. On a essayé de le développer en fait. L'État pour le coup.
Ce que vous voulez dire pour EDF et Total, ils ont décidé finalement de mettre leurs œufs quasiment dans le même panier, quoi.
Et dans un seul panier. Et le solaire, alors qu'on n'est pas quand même le pays le plus ensoleillé au monde. Que l'Arabie Saoudite se lance massivement dans le solaire, on comprend l'idée. Que la France et les industriels français reculent sur l'éolien en France, alors qu'on a des façades maritimes pour l'éolien en mer et beaucoup de vent pour l'éolien sur terre. Il y a quand même beaucoup d'incohérences là-dedans. Et normalement, j'ai tendance à penser que l'impulsion d'un État, l'impulsion publique, et en général d'essayer de mettre de la cohérence là-dedans ou de rectifier les déséquilibres de marché. Voilà, donc moi j'ai un peu du mal à y voir clair là-dedans dans une grande politique globale. Certes, il faut diversifier les sources d'énergie, mais à un moment donné, il faut aussi faire des choix et des vrais choix.
Des vrais choix. Alexandre Roche, le syndicat des énergies renouvelables.
Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que les grands groupes qui ont été mentionnés, en tout cas EDF a des intérêts dans le secteur éolien. La branche renouvelable d'EFN, d'EDF est justement dans un des consortiums de l'éolien en mer qui est en discussion en ce moment et développe des projets en France. Donc voilà, maintenant c'est vrai que je pense que ces grands groupes sont en phase de mutation, s'intéressent à beaucoup de choses. Faut aussi voir ce qu'ils font à l'international, hein. Faut pas regarder que ce qu'ils font en France. Et quand on regarde les groupes que vous mentionniez, on voit bien que finalement ils s'intéressent à l'ensemble des énergies. Ils rachètent des start-up finalement dans plein de secteurs, tant sur la mode de production que sur les business models pour faire de nouvelles offres aux clients finaux. Donc je pense que ces grands groupes là sont aussi en train de se transformer et mise sur l'ensemble des solutions. Après, c'est vrai que voilà, certaines, je le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout sur les mêmes degrés de maturité entre l'hydrolien, l'éolien terrestre, le PV. Chaque technologie renouvelable a sa propre courbe de baisse des coûts. Et ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, par ailleurs, si on compare à d'autres sources, c'est les dynamiques. C'est-à-dire que quand même sur la plupart des énergies renouvelables, avoir investi à un moment donné de l'argent public a conduit à baisser les coûts.
Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on en est justement là maintenant? On élargit pour terminer justement sur ces énergies renouvelables. Le coût de l'électricité est en train de baisser, le solaire, l'éolien deviennent compétitifs. Maintenant, ça coûte combien? Donnez-nous un ordre d'idée de produire de l'électricité d'origine renouvelable.
Pour vous donner un point de comparaison, le prix de marché de l'électricité en France aujourd'hui, il est d'à peu près 40 euros le mégawatt-heure. En solaire, si on regarde sur les installations d'une certaine taille, les derniers appels d'offres ont sorti des prix à 55 euros. Donc on est à peu près à 15 euros de différentiel, sachant que sur le solaire, on était à 300 ou 400 euros il y a quelques années. Donc c'est une chute vertigineuse.
Grâce à quoi? C'est quoi le coût des panneaux solaires qui a baissé?
C'est le coût des panneaux solaires, c'est les effets de masse, clairement, mais aussi les effets de la recherche et l'innovation. Et sur l'éolien terrestre en France, on est à peu près à 65 euros. Pour vous donner un autre ordre d'idée. Donc, en effet, c'est des sources d'énergie, d'électricité qui commencent à être compétitives, mais dans d'autres secteurs également, dans le secteur du chauffage, on parlait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, du besoin vraiment de se réintéresser à la chaleur renouvelable, qui est un élément très important de notre mix. On voit aussi que les sources comme le bois, par exemple, domestique, ou la méthanisation demain, peuvent apporter des solutions aussi qui seront compétitives. Alors, c'est vrai que dans le secteur de la chaleur, là, on est en compétition directe avec les énergies fossiles qui sont dans un contexte de prix extrêmement bas, notamment du gaz. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un enjeu.
Est-ce qu'on pourrait un jour produire 100% d'énergie renouvelable en France? Est-ce qu'on serait autosuffisant? Bon, clairement.
Je pense qu'il faut.
On se demandait tout à l'heure, est-ce que l'hydrogène, c'est un peu un miroir aux alouettes? Bon, oui.
Ouais, mais je crois que dès qu'on commence à venir avec des chiffres à 100%, on est tout de suite un petit peu dans la caricature. L'objectif de la loi de transition énergétique, encore une fois, c'est un horizon à 2030, c'est de dire on a 32% d'énergie renouvelable.
Renouvelable. Ouais.
On est à 17 aujourd'hui. Nous, on pense qu'on pourrait être à plus de 40. Ça, c'est quelque chose qui est à notre portée et qui est tout à fait crédible.
On peut y croire donc aux énergies renouvelables. Mathieu Pechberti, donc, il reste encore trop de freins?
Alors, on peut vraiment y croire maintenant pour les raisons qui viennent d'être dites, c'est-à-dire que ça y est, les prix baissent et vraiment les progrès ont été immenses, et même les spécialistes dont vous êtes, on leur aurait dit ça il y a 5-6 ans, ils n'y auraient pas cru. Mais il y a encore énormément de freins, d'abord encore une fois parce que les industriels s'y mettent lentement, et puis parce que en France, on est dans un pays très conservateur, un pays qui est ultra dominé par le nucléaire, qui a du mal à se lancer dans les énergies renouvelables. Les Américains, par exemple, qui ont aussi énormément de nucléaire, ils ont une centaine de centrales, même si le pays est bien plus grand, se lancent massivement dans les énergies renouvelables. Ils ont un esprit beaucoup plus entrepreneurial et que nous. Nous, on est encore à protéger les acquis. On a du mal à se lancer. Les Allemands se sont lancés plus tôt que nous. Les Espagnols se sont lancés beaucoup plus tôt que nous.
Allez, mot de la fin avec vous, Lionel French Kio, le patron de Hyundai en France.
Je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir d'approche dogmatique sur ces nouvelles technologies et ces énergies renouvelables. comme on l'a dit, je pense, dans toute cette émission, finalement, il y a de la place compte tenu de l'écart qu'il y a entre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et les objectifs qu'on doit atteindre dans le cadre notamment de la COP21.
Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
Voilà, il faut pas avoir une approche comme on a pu l'avoir effectivement avec le nucléaire à un moment donné qui a été de dire tout nucléaire et plus rien à côté.
Ouais, un mot, vous me dites un mot, vous avez été victime d'une quinte de tout, ma pauvre Charlotte de l'Orgerie, elle va bien. Alors oui,
je vais bien.
Faut y croire.
On y croit, il y a des atouts en France avec des acteurs clés.
Bon.
Donc il faut juste
s'organiser
fédérer les et certainement revoir un petit peu l'enveloppe qui me paraît basse,
les 100 millions de Nicolas Hulot. Donc ce plan sera révélé ce vendredi. Lionel French-Kio, on a une semaine du mondial, Hyundai évidemment l'un des top sponsors. Bon, vous êtes prêts?
Alors, on est plus que prêts. On est même ravis d'être partenaire de cet événement qui reste en termes sportifs le premier événement mondial. Donc on va essayer de profiter de cette opportunité.
Et que le meilleur gagne. Merci à tous. Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business. Alexandre Roche, le délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Charlotte de Lorgeril, la directrice du secteur énergie du cabinet de conseil SIA Partners. Et puis Lionel French-Kio, le directeur général de Hyundai France, l'un des rares constructeurs, je le disais, à miser quand même intensément sur l'hydrogène, voilà, à l'instar d'autres de ses collègues asiatiques. C'est fini pour les décodeurs de l'écho, on revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.